Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Grand Ciel et vous écoutez votre émission Caméléon avec un K. Aujourd'hui nous sommes avec Marie, bonjour Marie.
Bonjour Mère.
Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, Mira vous parlera du roi irlandais Brian Boru et moi je vous parlerai des traditions de Pâques à travers le monde.
Et nous commençons donc avec Brian Boru. Au 9e siècle après Jésus-Christ, l'Irlande est morcelée en plus de 100 royaumes, entre lesquels éclatent régulièrement des guerres, des rivalités et des alliances. Et à cette époque, bien que l'Irlande ait été convertie au christianisme par Saint Patrick depuis un certain temps déjà, l'idée de l'arrivée d'un haut roi, ou roi suprême d'Irlande, héritage païen, reste bien présente. Il s'agit d'une figure symbolique plus qu'un véritable chef, qui est considéré comme l'époux de la déesse de l'amour et de la guerre irlandaise, Maeve, est couronné sur le site préhistorique de Tara, là où se tient la pierre du destin. Il est dit de cette pierre qu'elle poussera un cri si fort qu'il sera entendu dans tout le pays lorsque le vrai roi suprême la touchera.
Eh bien, Brian Boru est donc devenu un roi suprême d'Irlande ?
Il est même devenu le plus grand et surtout le plus connu des rois suprêmes. Son nom peut signifier « Brian des tribus ». Ce que nous savons à ce sujet est assez incertain et controversé, et il est ainsi devenu un personnage légendaire et mythique. Il serait né aux alentours de 940, voire 920 selon certaines sources, dans le Munster, au sud de l'Irlande, et est le plus jeune fils d'un petit roi nommé Kenetig, qui contrôlait une partie de l'actuel comté de Clare. Lorsque son père meurt, son fils aîné, Matgamain, qui lui succède, évince la dynastie régnante au Munster et devient un roi puissant au sud de l'Irlande, avant d'être tué en 976 par des Vikings établis à Limerick, ville à l'ouest de l'Irlande. Brian prend ainsi le pouvoir en tant que roi du Munster et commence par venger son frère en tuant le roi viking ainsi que ses fils, puis élimine tout concurrent au trône. Au fil des batailles, il prend ainsi le pouvoir d'une grande partie de l'Irlande du Sud, agrandissant son royaume et finit par constituer une flotte puissante qui supporte son armée à terre et lui permet de lancer des attaques contre les Vikings. Il s'allie ensuite au haut roi actuel, Maels Cainail de Met, et en 999 prend et saccage Dublin avant d'y mettre le Scandinave Sitric Silkbeard sur le trône et de lui donner une de ses filles en mariage. Maels Cainail domine alors le nord de l'Irlande et Brian le sud. Mais, en 1002, pour une raison qui reste inconnue, Maël cède le titre de roi suprême à Brian Boru, qui soumet alors l'Ulster au nord. Et lorsqu'il accomplit un grand voyage à travers tout le pays, en 1005, il est reconnu par tous comme le roi suprême d'Irlande. Mais, en 1013, il est malgré tout attaqué par une alliance du Leicester, à l'ouest de l'Irlande, et des Vikings de Dublin, conduits par Sitric Silkbeard lui-même, qui a fait venir en renfort des guerriers des Hébrides de l'île de Man. La bataille eut lieu le Vendredi Saint, à Clontarf, juste au nord du Dublin. Les Irlandais et les Vikings étaient présents dans les deux camps, et ce fut une terrible bataille qui dura au moins une journée, avant que Dublin et le Leinster ne soient vaincus. Ce fut la dernière bataille de Brian Boru, qui aurait été tué lors d'un duel pendant la bataille. Mais selon d'autres sources, le roi, qui avait alors près de 75 ans et selon certaines sources 90, aurait laissé son fils Murchad conduire l'armée, et tandis qu'il priait dans sa tente, un viking danois s'y serait introduit et l'aurait assassiné. C'est en fait la version la plus communément acceptée de la mort de ce roi, considéré comme l'unificateur de l'Irlande, et mentionnée dans la saga nordique de Njal le Brûlé. Maël reprend alors le titre de roi suprême, bien que le fils de Brian Boru, Donnchad, contrôle encore le Munster. Les descendants de Brian Boru furent encore des personnages puissants en Irlande pendant de nombreux siècles. La marche de Brian Boru, Le morceau que vous venez d'entendre a, selon la légende, été composé lors des funérailles du roi. Il a été repris au fil des siècles par de nombreux artistes, notamment The Chieftains, Clannad, Alan Stivell, qui leur ajoute des paroles en irlandais puis en breton, Lorina McKennitt ou Cécile Corbel, rien que pendant le 21e et 20e siècle.
Quant à la harpe de Brian Boru, c'est un instrument médiéval exposé au Trinity College, à Dublin, au même endroit que le célèbre livre de Kells. C'est une harpe d'une grande valeur, vu son ancienneté, mais elle date en fait du 14e ou 15e siècle. Et donc, trop récente pour avoir réellement appartenu à Brian Boru.
Cette harpe est aussi un des symboles de l'Irlande, qui apparaît sur les pièces en euros. Quant à Brian Boru, il reste dans la mémoire collective comme l'unificateur de l'Irlande et le vainqueur de l'envahisseur viking. Et à présent, nous parlerons des traditions de Pâques à travers le monde avec Marie.
Rappelons tout d'abord que Pâques est une fête religieuse qui, dans la religion chrétienne, commémore la résurrection de Jésus. Pour les chrétiens, Pâques évoque avant tout le souvenir de Jésus-Christ mort et ressuscité autour de l'an 30. Le dimanche de Pâques suit la semaine sainte, durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres, le jeudi saint, avant d'être crucifié le lendemain, le vendredi saint, puis ressuscité le troisième jour. Dimanche de Pâques, jour de réjouissance. Dans la religion juive, Pâques célèbre la fuite du peuple juif conduit par Moïse d'Égypte. En France, les cloches cessent de sonner du jeudi au samedi de la semaine sainte. Elles sont, paraît-il, parties à Rome, d'où elles reviennent dans la nuit du samedi au dimanche, déversant sur leur chemin des friandises pour les enfants. Ainsi, le dimanche, après la traditionnelle messe de Pâques et la quête des œufs tombés dans les jardins, la famille se réunit autour d'un plat d'agneau rôti. La fête de Pâques varie selon les religions, mais les traditions sont également propres à chaque pays, voire à chaque région. Dans certaines régions françaises, on raconte que c'est le lapin qui apporte les œufs et les dépose dans les nids confectionnés la veille par les enfants. La brioche de Pâques, en Italie, est la colomba, un gâteau en forme de colombe, symbole de bonne nouvelle. L'agneau rôti est également dégusté le dimanche de Pâques, tandis que le lundi est réservé aux sorties pique-nique en famille. En Espagne et au Portugal, les jeudis, vendredis saints et lundi de Pâques sont fériés. Le gâteau de Pâques est la mona en Espagne, brioche dorée sur laquelle certains Espagnols posent des œufs avant de la cuire. Préparés plusieurs mois à l'avance, des processions et des représentations théâtrales sont organisées dans les rues durant la semaine sainte. En Angleterre, ce n'est pas l'agneau, mais le jambon qui est servi à Pâques, le cochon étant un symbole de chance pour les Anglais. Les œufs de Pâques font également partie de la fête et des jeux sont organisés pour les petits et les grands. Dans certaines régions, les petits Anglais vont de maison en maison pour quémander des friandises, à la manière d'Halloween. En Finlande, déguisés en vieilles femmes ou en sorcières, les enfants vont sonner aux maisons voisines où ils reçoivent des bonbons et des chocolats. La tradition des sorcières de Pâques, appelée Virpominen, viendrait d'une ancienne légende selon laquelle les trolls et les sorcières sortaient entre Vendredi Saint et le jour de Pâques. Cette tradition existait déjà en Suède, il y a plus de 100 ans. D'autres croyances sont apparues dans les pays scandinaves. On raconte par exemple qu'il faut se lever tôt à Pâques pour voir danser le soleil. Le jaune du soleil est d'ailleurs la couleur des décorations de Pâques en Norvège, en Suède et au Danemark. D'autres symboles apparaissent en Pologne. L'eau, symbole de vie, fait partie de la fête et, lundi de Pâques, les amis s'en versent les uns sur les autres pour enlever les péchés. Ce lundi est appelé le Smigus Dingus, le lundi mouillé. Mais Vilcanoc, la grande nuit de Pâques, est également l'occasion d'exposer des œufs colorés ou décorés de fils de laine. Les œufs sont également à l'honneur en Russie, peints ou décorés selon une tradition ancienne qui consiste à les faire bouillir avec des pelures d'oignons pour leur donner une couleur brun-rouge. Les Russes dégustent l'agneau au beurre ou le jambon au four et en dessert le kulik, gâteau au rhum et au safran, et le paska, entremets à base de fromage blanc. L'œuf et l'agneau se retrouvent également en Grèce, où la famille se réunit autour de la soupe aux tripes, dans laquelle on cuit le cœur et les poumons de l'agneau pascal. Chacun à table essaie ensuite de casser l'œuf de son voisin avec trois doigts. œuf qui a été auparavant peint en rouge pour symboliser le sang du Christ. Présent sur presque toutes les tables grecques au moment de la fête de Pâques, le tsoureki est un pain brioché tressé et parsemé d'éclats d'amandes. Il est souvent garni d'un ou plusieurs œufs durs dont la coquille a été peinte en rouge. C'est le feu de Pâques en Allemagne, qui réunit parents et enfants à la nuit tombée. Symbole du soleil, le feu de Pâques est une ancienne tradition qui célèbre le printemps et la fin du mauvais temps. En Allemagne, c'est le lièvre ou le lapin de Pâques qui apporte les œufs en chocolat. Aux États-Unis, c'est Easter Bunny, le lapin de Pâques, qui apporte des chocolats, bonbons et guimauves aux enfants. Le lundi de Pâques, une grande chasse aux œufs est organisée par le président dans les jardins de la Maison-Blanche. Luttant depuis quelques années contre la prolifération des lapins qui provoquent des dégâts considérables sur le continent, les Australiens, eux, tentent aujourd'hui de remplacer le lapin de Pâques par le bilby de Pâques. Ce petit marsupial aux grandes oreilles devient donc peu à peu l'emblème de la fête de Pâques en Australie. Et les bilbis, en danger d'extinction dans le pays, prolifèrent désormais dans les vitrines des chocolatiers pour sensibiliser les enfants et récolter les fonds nécessaires à sa protection. Je vais vous parler de l'île de Pâques. Pâques est donc célébrée dans le monde entier, mais il existe une petite île, perdue dans l'océan Pacifique, très loin de toute terre habitée qui porte le nom de cette fête. Pourtant, si l'île de Rapa Nui, à l'est de l'Océanie, est appelée île de Pâques, ce n'est pas parce qu'elle cache des œufs de Pâques parmi ses mystérieuses statues de pierre. Elle porte ce nom parce qu'elle fut découverte par Jacob Roggeveen le jour de Pâques 1722.
Merci de nous avoir écoutés, c'était Caméléon avec un K sur Radio Grand Ciel, et au mois prochain. Au revoir,
au revoir.
Marie.